France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Après la Syrie, Donald Trump veut rapatrier une partie des troupes américaines déployées en Afghanistan. Environ 7000 soldats seraient concernés, soit la moitié des forces présentes sur place. Voilà ce qu'affirment le Wall Street Journal et le New York Times ce matin. Pour le locataire de la Maison Blanche, les États-Unis n'obtiennent rien en contrepartie de cette intervention en Afghanistan. Il y a quelques heures seulement, par ailleurs, aux États-Unis, Jim Mattis, le chef de la défense américaine, en désaccord avec le président américain sur ces questions, a démissionné. Carlos Ghosn est visé par un nouveau mandat d'arrêt. L'ancien PDG de Nissan, PDG de Renault, est accusé d'abus de confiance aggravé. Sa détention est donc prolongée au Japon d'au moins 48 heures. Carlos Ghosn est derrière les barreaux à Tokyo depuis plus d'un mois maintenant, arrêté jusque-là pour malversation financière. Il espérait être libéré sous caution ce vendredi. Près de 4 ans après l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo à Paris, un djihadiste français potentiellement impliqué a été arrêté dans la Corne de l'Afrique. Peter Sherif aurait entretenu des échanges réguliers avec Saïd et Sherif Kouachi, les deux frères auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo. Cet homme de 36 ans, Peter Sherif, est actuellement en garde à vue à Djibouti. Il devrait être transféré vers la France. Au Maroc, les 4 hommes interpellés pour le meurtre de deux randonneuses scandinaves dans les montagnes du sud du pays avaient prêté allégeance au groupe État islamique. Voilà qui confirme les suspicions des autorités marocaines. Elles se penchaient dès hier sur un acte terroriste. Emmanuel Macron s'adresse directement aux Gilets jaunes. Le président a répondu hier à la pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe, une pétition qui rassemble plus d'un million de signatures. « Vous avez raison », a écrit le chef de l'État aux signataires, rappelant les mesures d'urgence sociale annoncées par le gouvernement la semaine dernière. Des mesures qui, justement, ont été votées en urgence à l'Assemblée nationale cette nuit. Baisse de la CSG pour certains retraités, défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires, ainsi que d'une prime exceptionnelle pour les salariés. Le député La République En Marche, Sébastien Nadeau, a lui voté contre et il s'est vu dans la foulée exclure du parti majoritaire.
France Culture s'associe à la réouverture de la piscine de Roubaix. Après 18 mois de travaux, la piscine rouvre ses portes. Pour célébrer cet agrandissement tant attendu, le musée reçoit des invités exceptionnels et débutera une saison sans pareil avec des expositions consacrées à des artistes majeurs tels qu'Hervé Di Rosa, Pablo Picasso ou encore Alberto Giacometti. Venez découvrir ces nouvelles expositions jusqu'au 20 janvier. Un partenariat France Culture et le magazine L'Œil.
Nous sommes le vendredi 21 décembre 2018, il est 6h03, vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons bande dessinée pendant une demi-heure avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, on ne compte plus les jours, on compte les heures maintenant. Bientôt donc, on changera d'année et on ne sait pas ce que nous réserve 2019. Sinon, qu'on peut vous le dire d'ores et déjà, il y aura beaucoup de commémorations. Ce sera tellement riche en commémorations qu'on va peut-être commencer avant l'heure, tout de suite, aujourd'hui, à célébrer comme il se doit les 50 ans de la naissance de Pif Gadget. Notre invité Christophe Killien, spécialiste de bande dessinée et l'auteur d'un livre, d'un très beau livre, qui vient de sortir et qui retrace l'histoire de cet hebdomadaire qui a marqué de nombreuses générations, la mienne en fait partie d'ailleurs, et qui va fêter son demi-siècle en février 2019. Pif, Hercule, Placide et Museau, Raon, Docteur Justice, Guéluron, Tidy Dead, Arthur le Fantôme, 10 centimes le Petit Franc, Corto Maltese le Mal-Aimé, le Concombre Masqué si mal compris, Pifou, attention, si ces noms ne vous disent absolument rien, c'est pas grave, cela veut dire que vous êtes très jeune, glop glop, ou alors que vous avez tout oublié, et alors là, c'est pas glop, pas glop. Corinne Amar est à la coordination du Réveil Culturel, Vincent Abouchard à la réalisation avec ce matin, Claude Niort pour la prise de son.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Ce beau livre sort chez Hors Collection. pif, 50 ans d'humour, d'aventure et de bande dessinée. Bonjour Christophe Killien.
Bonjour Toufik Hakem.
Est-ce que vous aussi, vous faites partie de cette génération qui a été biberonnée? Bah oui, je vous vois.
Et oui.
On se voit, c'est bah oui. Bah nous on connaît, hein. On connaît
oui,
tous ces gens.
Oui. Moi j'ai grandi avec Pif, Gadget et puis tous les personnages du journal, bien sûr. Donc j'avais envie de leur rendre hommage et à la fois d'évoquer l'histoire de Pif, enfin du titre lui-même, et puis l'histoire des dessinateurs, des scénaristes et des personnages, bien évidemment. Donc c'est l'angle que j'ai choisi, c'est de présenter les personnages de Pif Gadget et un peu de Vaillant aussi, qui était le journal d'avant.
Oui, parce que avant de parler des auteurs de bande dessinée, des personnages, des gadgets, parce que c'était très important dans Pif, vous faites l'historique de cette publication. Et en vous lisant, Christophe Killien, on se dit qu'il y a eu vraiment l'âge d'or de la presse communiste en France.
Oui, alors de la presse communiste, de la presse tout court même, et puis de la presse pour les jeunes, pour les enfants et pour les adolescents, parce qu'il y avait quand même quantité de journaux, d'hebdomadaires qui présentaient de la bande dessinée. Vaillant en a fait partie à partir de 1945, et puis Pif Gadget à partir de 1969. C'était deux beaux exemples d'une réussite de presse pour les jeunes.
Aujourd'hui, on peut rendre hommage à Pif, à cet hebdomadaire, mais très longtemps, dans les milieux de la bande dessinée, on ne parlait pas de Pif.
Oui, c'est vrai que Pif était peut-être un peu, alors tenu à l'écart, je sais pas, mais certains parents voulaient pas que leurs enfants lisent Pif parce que Pif appartenait au Parti communiste, même si l'idéologie communiste transparaissait pas à travers les pages du journal.
Ça restait quand même humaniste. Hein,
oui, ça c'est vrai. Ça faisait partie des grandes valeurs de Pif, de Vaillant d'abord, puis de Pif ensuite, c'est-à-dire l'humanisme, la générosité, l'attention à l'autre, on luttait contre le racisme, etc. Mais c'était pas du tout un journal militant, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas passer un courant d'idées précis à travers les histoires de Pif, finalement. On pouvait le lire sans se dire « Ah bah tiens, c'est un journal du PC », c'était vraiment pas le cas du tout.
Alors comment est né Pif Gadget ?
Pif Gadget est né en 1969, il a pris la suite d'un hebdomadaire qui s'appelait Vaillant, enfin Vaillant, le journal de Pif plus exactement. Les ventes étaient un peu en baisse. Alors il y a eu un premier changement de formule. Vaillant est né en 45, puis il est devenu Vaillant, le journal de Pif en 65, et Pif Gadget en 69 pour redonner un coup de fouet au journal, ce qui a bien marché, puisque il y a eu l'invention du gadget, qui évidemment a joué un rôle certain dans le succès de Pif, mais il y a eu aussi quantité de personnages, soit réalistes, soit humoristiques, qui ont
avec
fait
des
beaucoup.
Des références américaines, parce que.
Oui, c'est
ce qui
vrai.
Est très
c'est
intéressant,
vrai,
c'est Christophe Killien, quand on lit votre histoire de Pif, c'est-à-dire que depuis le début, les gens vont se poser la question, comment faire pour faire comme les Américains, sans être pro-américain.
Exactement.
Comment faire pour adapter le marketing à l'américaine, tout en étant conforme à nos valeurs de communistes?
Oui, bah alors il se passait quelque chose de très simple, c'est que certains des grands scénaristes de Pif, notamment Roger Lécureux et Jean Olivier, qui étaient les deux principaux scénaristes, Rahan, les pionniers de l'espérance, Docteur Justice, quand ils étaient jeunes, ils avaient lu de la bande dessinée américaine. Il y avait un âge d'or de la BD américaine dans les années d'avant-guerre. Donc ils avaient lu des grandes séries comme par exemple Prince Vaillant, ou bien comme Flash Gordon, qui est une série de science-fiction et qui a largement inspiré les pionniers de l'espérance. Donc certains des personnages de Pif, pas tous, mais certains doivent beaucoup à la BD américaine, mais évidemment, il fallait pas le dire. Ce qui est amusant, c'est que...
Ah non, il faut raconter quand même l'histoire du gadget, hein, parce que l'histoire du gadget, c'est quand même après un voyage en Amérique.
Oui. Alors, ce serait André Limansky, qui était le responsable des ventes, qui venait de chez Hachette, donc qui avait été imprégné d'une méthode commerciale qui n'était pas du tout celle de Pif, qui aurait eu l'idée de créer un gadget dans le journal, ce qui a été le cas donc à partir de 69. Et c'est lui aussi qui aurait eu, dit-on, l'idée des deux grands gadgets qui ont eu un énorme succès, qui étaient d'abord les Pifies, qui étaient des espèces de petites créatures qu'on trouvait sous forme de poudre, on mettait ça dans l'eau, puis hop, ça naissait comme ça, sous les yeux des lecteurs, c'était magique. Et puis aussi les poissoteurs, les fameux Pifitos.
C'est lui qui panique à bord, dans la France de l'époque, hein, il fallait tester tous ces gadgets.
Oui, surtout pour les Pifitos, parce qu'à un moment, on a cru que d'après un article, était une thèse plus exactement, qui avait été publiée à Cuba, on a cru qu'il y avait un danger d'empoisonnement à cause des Pifitos, et puis on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas. Donc voilà, c'est tout à fait inoffensif. Les poissoteurs, les fameux Pifitos,
ouais.
C'est eux.
On se souvient très bien des gadgets de Pif.
Ce qui s'est passé
avec
aussi,
un âge d'or et puis un déclin, on peut le dire. Hein.
Oui, bien sûr. Alors certains gadgets ont été réutilisés par la suite, c'est-à-dire que PIF a connu plusieurs formules jusqu'à la fin de sa publication en 1993, et les poissauteurs ou les pifis ont été réutilisés plusieurs fois. Et quand le journal a été relancé en 2004, le premier numéro proposait encore, je crois que c'était les poissauteurs ou les pifis, je ne sais plus, mais en tout cas un des deux gros succès de. Mais il n'y avait pas que ça dans les gadgets. Il y avait à la fois un côté ludique, un côté pédagogique. Il fallait qu'on apprenne quelque chose au lecteur. Par exemple, à un moment, il y a une série de gadgets qui avait été réalisée avec un grand scientifique, enfin journaliste scientifique de l'époque qui s'appelait Albert Ducrot, et qui proposait un téléphone, un sous-marin, un appareil photo, etc. C'était vraiment des appareils qui fonctionnaient, qui ont monté soi-même. Bon, évidemment, aujourd'hui, on ne le ferait plus parce qu'on n'aurait pas la patience de faire ça. Mais il y avait toujours ce double aspect dans les gadgets de PIF, s'amuser mais aussi apprendre.
Alors derrière PIF le chien, il va y avoir des personnages qui vont devenir légendaires. On se demande même avec le recul si c'est pas PIF le chien qui a le plus vieilli ou il a vraiment mal vieilli.
Oui, effectivement, ce qui est très marrant, moi je me suis amusé plusieurs fois quand je préparais le livre à poser la question à des gens que je connaissais en leur demandant quel était leur héros favori. C'est vrai que Rahan revenait quand même très très souvent. Rahan a beaucoup marqué les esprits alors que PIF personne ne me citait jamais PIF. C'était un personnage très populaire à une époque, et puis après il a été repris par plein d'autres destinataires, et je crois qu'il a perdu un peu de son identité. Et finalement, il servait surtout de nom et de support au journal, mais c'était loin d'être le personnage le plus populaire. Moi, je me souviens de mes lectures de jeunesse, je me souviens de différents personnages, mais j'étais pas particulièrement marqué par PIF lui-même.
Qui est José Cabrero Arnal?
José Cabrero Arnal, c'est le créateur de PIF.
Ouais, mais
d'abord, il a créé Placide Musso, c'est un réfugié espagnol. Voilà. Qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale à Mauthausen, qui a beaucoup souffert de la déportation et qui a été très diminué physiquement, et qui était un dessinateur très populaire dans son pays d'origine, l'Espagne, entre les deux guerres, notamment à Barcelone, parce que dans les années 30 à Barcelone, avant le coup d'État et la guerre civile, il y a eu un grand dynamisme en matière de presse et de dessin. Et quand il est revenu, il s'est installé, quand il est revenu de déportation et quand la guerre a été terminée, il s'est installé à Paris. Il a créé Placide Musso en 49, donc Le Renard et l'Ours. Et deux ans plus tard, dans le journal L'Humanité, il a créé PIF le Chien. Et PIF a été publié dans Vaillant en 1952. Donc c'est le créateur du personnage emblématique du journal, Arnal.
Comment se passait l'élaboration d'un numéro de PIF Gadget? Est-ce qu'il y avait un grand rédacteur en chef à la manière d'un Goscinny,
oui,
dirigeant pilote? Ou est-ce que c'était beaucoup plus du marketing? Il fallait trouver d'abord le gadget, il fallait répondre aux demandes des enfants, ou puis surtout être imprégné par l'époque, parce que ce que vous nous rappelez, Christophe Killian, dans ce beau livre consacré aux 50 ans de PIF, c'est que la télévision va beaucoup influencer les choix éditoriaux de PIF.
Pas tout de suite. C'est vrai qu'à partir du milieu des années 70, on a vu la télé être très présente dans le journal, à la fois parce qu'il y a certaines séries qui ont été adaptées en bande dessinée, comme par exemple Amicalement Vôtre ou L'émissaire de l'Ouest, mais aussi parce qu'il y a des vedettes, on disait comme ça à l'époque, des vedettes de la télé qui sont devenues des personnages représentatifs, emblématiques du journal, comme Carlos, Sim, enfin plusieurs, je me change d'autres noms, j'en ai plus qui me viennent en tête, et qu'on a mis en avant. C'est vrai que la photo et la télé ont pris plus de place par rapport au dessin, mais dans les premières années de PIF Gadget, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un rédacteur en chef. Alors d'abord, il y a eu Georges Rieux, qui est un peu le rédacteur en chef historique. Après, il y a eu Richard Medioni, qui lui a écrit une histoire du journal de PIF dans les années 2000, qui est un peu à l'origine de la redécouverte de PIF. Et il y avait en même temps des gens qui réfléchissaient au gadget. Mais je crois que tout ça était, d'après Medioni, tout ça était très mélangé. C'était pas du tout une grosse entreprise avec un service marketing et puis la rédaction à côté. Tout le monde travaillait ensemble. Et on essayait de trouver les gadgets qui répondent à ce double impératif de distraction et de pédagogie, finalement.
Les gadgets qui pouvaient doubler le tirage, qui était très important d'ailleurs, hein, puisque c'était jusqu'à 500 000 exemplaires et ça pouvait monter jusqu'à 1 million d'exemplaires.
1 million, c'est l'exception. Alors moi, j'ai pas vérifié les chiffres. C'est Richard Medioni qui dit qu'en effet, il y a eu un tirage d'un million d'exemplaires pour le numéro avec les Pifis et le numéro avec les Poissoteurs. Mais j'ai eu accès à un document de ce qu'on appelait à l'époque l'office de l'OJD, qui était l'organisme chargé de contrôler la diffusion des journaux. Et pour la période 70-71, la diffusion moyenne chaque semaine était d'un peu plus de 300 000 exemplaires, avec des pics à 500, voire 600 000 exemplaires, ce qui était effectivement beaucoup. C'était la grande époque de la presse quand même. Les journaux se vendaient beaucoup à cette époque-là.
Et vous-même, racontez-nous votre histoire particulière, Christophe Killian, avec PIF.
C'est une histoire assez simple. Moi, j'avais des parents qui étaient militants communistes, et le dimanche matin...
Avec l'UMA.
Voilà, j'habitais à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, et mon père allait acheter l'Humanité et il prenait PIF Gadget. Donc moi, je disais PIF Gadget, bien évidemment. Mes parents n'étaient pas forcément très très bienveillants à l'égard de la bande dessinée en général. Donc je lisais des BD. Enfin, ils me laissaient quand même en lire, mais ils auraient préféré que j'aie d'autres lectures, ou en tout cas que je ne lise pas que de la bande dessinée. Mais j'avais quand même droit à PIF Gadget. Ce qui était bien.
Pour le gadget ou pour les histoires?
Pour les histoires, mais je crois que les histoires m'intéressaient beaucoup plus que le gadget en réalité.
Alors, votre héros préféré?
Tous, finalement. Tous sauf Corto Maltese, évidemment.
On va en parler dans un instant avec vous.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et nous sommes avec Christophe Killian, qui vient de publier chez Hors Collection un très beau livre illustré avec tout ce qu'il faut de documents incroyables qui racontent l'histoire des 50 ans de PIF Gadget, 50 ans d'humour, d'aventure et de bande dessinée. Ici, on parlait de nos héros d'enfance. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais tout d'abord, puisque vous avez parlé de Corto Maltese, vous faisiez partie de ces enfants-là qui n'ont jamais, jamais aimé Corto Maltese quand il était publié par PIF?
Ah ben non, bien sûr. Corto Maltese, c'était mal dessiné, on comprenait rien, on se demandait ce que Corto venait faire dans un journal comme PIF. Et je crois qu'on était assez nombreux à avoir cette réaction. Alors après, ça a changé. Après, je suis devenu un grand amateur de Pratt et de Corto. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était...
Il faisait perdre des
lecteurs. C'est ce que raconte Richard Medioni. Il a donné une interview dans un hors-série d'un magazine en 2015. Et il disait que quand PIF publiait Corto, la semaine d'après, il y avait 20 000 exemplaires de vendus en moins. Je crois que Corto déroutait. Mais c'est aussi grâce à ça, finalement, qu'il est arrivé dans PIF, parce que la rédaction a été assez estomaquée le côté très novateur du dessin de Pratt, mais aussi de ses histoires.
C'est un acteur en chef qu'il rencontre en Italie, dans un festival de bande dessinée.
Hein. À Lucca, voilà, c'est ça. Alors l'histoire, c'est ce que raconte Pratt, hein, c'est que à l'époque, on est en 69, Pratt travaille, évidemment il n'est pas connu comme il l'est aujourd'hui, il travaille pour un journal, une revue italienne qui s'appelle Sergent Kirk, d'après l'un de ses autres personnages, et puis la revue fait faillite.
Pas, ouais. Ça marche.
Petit tirage, fin 69, mais deux mois plus tôt à Lucca, il avait rencontré Georges Rieu qui lui avait dit « Écoutez, ce que vous faites, c'est vraiment très bien. Si vous passez à Paris, venez nous voir et puis nous, on vous publiera. » Donc Pratt se dit, il se souvient de la conversation, il dit « C'est ce que je vais faire. » Il prend le train. Dans le train, pendant le voyage de l'Italie jusqu'à Paris, il se dit « Tiens, je vais reprendre un personnage d'une histoire qui s'appelle La Balade de la Mer Salée. Ce personnage, c'est Corto Maltese et je vais en faire un héros. » Ce qui n'était pas du tout son idée au départ. Mais quand il arrive, quand il revoit Georges Rieu, celui-ci se souvient absolument pas de leur conversation, mais lui dit, bon, ça fait rien, on va quand même travailler ensemble, on va vous publier dans PIF. Et c'est comme ça que Corto est arrivé dans PIF Gadget en mars 70.
Et ça dure très peu de temps pour dire
ça dure trois ans quand même, ce qui est bon, c'est, il a quand même eu l'occasion de se faire connaître auprès du lectorat français, ce qui a été le plus important pour lui. Et puis, au moment où il part de PIF, ça y est, c'est un auteur consacré, il est publié chez Casterman, il est republié en presse, notamment, je crois, dans François, si je me souviens bien. Et à partir de là, Corto Maltese et Hugo Pratt deviennent deux stars internationales. Et PIF Gadget a vraiment joué un grand rôle dans la carrière de Pratt.
Alors, pas seulement dans la carrière de Pratt, puisqu'on va retrouver deux grands noms de la bande dessinée, à savoir Gottlieb et Mandrika.
Exactement. Gottlieb qui démarre avant PIF, qui démarre dans Vaillant, en créant son personnage de Guéluron, qui est une sorte de droupie à la française, c'est-à-dire un chien très flegmatique qui passe son temps à dormir, et qui devient le héros d'une série dans laquelle il est au départ un personnage secondaire, donc dans Vaillant, et puis après Gottlieb va laisser la main à un autre dessinateur qui s'appelle Dufran, et qui va reprendre le personnage de Guéluron, parce que Gottlieb avait plus le temps, il travaillait sur les dingos dossiers, et surtout sur la rubrique à braque dans Pilote, et il a laissé tomber PIF. Et l'autre, c'est Mandrika. Alors Mandrika, c'est pareil, c'était pas du tout évident pour lui. Il avait ce personnage du concombre masqué qui était quand même
c'est culte.
Un modèle. Ah oui, mais c'est très absurde. C'est un peu déroutant pour le jeune lecteur de l'époque.
D'ailleurs, j'ai reçu Mandrika il y a deux ans et qui me disait tout le monde connaît le concombre masqué, mais jamais je n'ai gagné d'argent avec lui.
Ah ben ça, je savais pas. Pourtant, il y en a eu des albums du concombre, mais
ouais,
c'est un vieux pilier de Vaillant, Mandrika, parce qu'avant de travailler pour PIF, il a d'abord travaillé dans Vaillant, puis un jour il a vraiment laissé tomber PIF pour aller à Pilote, où il se disait, il avait raison, que le lectorat plus adulte de Pilote était plus susceptible de comprendre quelque chose à ces histoires qui étaient peut-être un peu déroutantes pour un jeune lecteur de Vaillant ou de PIF.
Alors PIF, c'est aussi Docteur Justice,
ah, oui.
où l'on apprend que le modèle du dessinateur de Docteur Justice n'est autre que Alain Delon.
Ouais, le modèle physique. Le modèle physique, au départ, effectivement, le dessinateur Raphaël Marcello, qui est un Italien, s'est inspiré d'Alain Delon pour camper son personnage. Bah, de même qu'en France, Giraud, qui a créé Blueberry avec Charlier, s'était inspiré de Belmondo, les vedettes de cinéma de l'époque inspiraient parfois les auteurs de bandes dessinées. Et sinon, l'idée du personnage est venue à Jean Olivier parce qu'il connaissait un médecin, un des pionniers de la médecine humanitaire, qui avait notamment beaucoup travaillé au Biafra et qui lui avait raconté ses expériences de médecin. C'est comme ça que Docteur Justice, médecin attaché à l'OMS, c'est la petite phrase qu'il y avait toujours au début de chaque histoire. Je m'appelle Justice, Docteur Benjamin Justice, médecin volant, quelque sorte, etc.
Alors, qu'est-ce qui est bleu avec un bec jaune et qui possède des mains à la place des ailes? C'est un personnage de Pif. On l'avait un peu oublié, Quick.
C'est vrai, il y a plein de personnages, entre guillemets, secondaires dans l'histoire de Pif, mais qui étaient quand même très attendus chaque semaine par les lecteurs. Et Quick, je crois, en fait partie, qui était créé par Cambe, qui a après inventé 10 centimes, le petit franc. Oui. Et je trouve que tous ces personnages, entre guillemets, secondaires, donnaient vraiment un charme particulier. Par exemple, il y en a un que j'aimais beaucoup, qui était Nestor, le prisonnier. Alors, Nestor, le prisonnier, je suis sûr que... Ça se trouve, beaucoup de gens n'aimaient pas, parce que c'était un dessin assez sommaire. Il y a un petit côté absurde aussi. Il passait son temps en prison alors qu'il n'était pas condamné. En réalité, il vivait en prison parce que ses parents, son père était gardien de la prison et sa mère était, je crois, blanchisseuse. Donc, c'était un dessin assez sommaire, des histoires un peu curieuses, mais j'adorais ça. Je crois que tous ces personnages faisaient partie du charme du journal. Il y avait les grandes vedettes, notamment les héros des récits réalistes. Et puis, il y avait tous ces gags en une page, qui n'étaient pas forcément toujours des gags d'ailleurs, mais tous ces héros en une page qui faisaient vraiment partie de l'histoire du journal.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait très peu d'héroïnes, mais vous allez me dire, ça c'est l'époque.
C'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de personnages féminins. Il y en avait quand même quelques-uns dans Pif. Il y avait évidemment Corinne, alors qui est une héroïne à l'envers en quelque sorte, parce que c'était quand même la méchante. Elle faisait souffrir le pauvre Jeannot, mais qui était aussi un peu responsable de ce qui lui arrivait. Il y avait Marine un peu plus tard. Marine, qui était une fille de pirate. Et puis il y avait des personnages. Alors il y a eu Ariane de Troll, qui était l'héroïne de Masque Rouge, une série qui a continué après sous le nom des Sept Villes d'Épervier. Il y avait quand même des personnages féminins. Il y avait aussi les femmes des Pionniers de l'Espérance, qui est une équipe de sorte d'explorateurs intersidéraux, qui était à la fois international par la composition, enfin l'origine géographique de ses membres, et qui était mixte. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait Maud, l'américaine. Donc il y avait quand même une héroïne américaine dans Pif. Et puis il y avait Xin Lu, la chinoise.
Et puis enfin, on va parler bien sûr de la superstar de Pif. Pour terminer, Tilly Ted, c'est pas lui, non. Même s'il a eu son heure de gloire.
Oui, c'est vrai. Ouais. Tilly Ted, dessiné par Forton. C'était un cowboy, mais un cowboy un peu différent. De même que Lou Noir est un Indien différent dans les pages du journal. Tilly Ted, il était copain avec un type qui parlait jamais, qui s'appelait l'Apache. Et c'était alors trouver tous les ingrédients habituels du western, avec peut-être la dimension un peu plus, pas engagée, ce serait peut-être un grand mot, mais en tout cas chez le héros, une forme de générosité. C'était pas le type qui allait sortir son flingue à tout bout de champ.
Un super héros arabe musulman, ça pouvait exister à l'époque.
Eh oui, alors, dans Pif. Eh oui, Nasrinoja.
Ouais.
Alors Nasrinoja, il a pas été inventé par le scénariste Roger Lécureux. En fait, celui-ci a repris une vieille légende, mais qu'on trouve dans
Soufie,
quantité.
Bien sûr.
Oui,
bien
alors
sûr.
Dans les pays arabes, mais pas seulement dans les pays arabes, parce qu'il porte différents noms. Nasrinoja, c'est une sorte de justicier qui adore ridiculiser les puissants et se ranger aux côtés des faibles. Alors il a plein de noms, hein. Il est célébré, je sais pas, en Turquie, au Moyen-Orient,
en Iran,
et dans Pif.
Et dans Pif,
incroyable. Ah, j'adorais.
Mais alors, je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, Christophe Quillien, pour l'exposition consacrée à Raon, mais c'est une exposition qui a enregistré un succès phénoménal. Personne n'a donc oublié Raon.
On peut pas oublier Raon. Raon, ça a été le personnage, je crois qu'avec Docteur Justice, c'était le héros le plus célèbre du journal, mais c'était quand même lui le numéro un. Les gens adoraient Raon, y compris des gens qui n'étaient pas des grands amateurs ou des grands passionnés de bande dessinée, tout le monde aimait Raon. Pourquoi ? Ben, je sais pas, il avait de la gueule, de la prestance, il était super débrouillard, il a inventé quantité de choses, et puis il était très 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 en avance sur son époque. C'était quelqu'un qui était partisan de la paix entre les peuples, enfin plutôt entre
écolo
les tribus.
Écolo
avant l'heure, qui était très fermement, qui prenait position contre le racisme de manière
Alors évidente. C'est le fils du dessinateur ou du scénariste Raon?
C'est le fils de Roger Lécureux, mmh, le scénariste, et de André Chéré, le dessinateur.
Qui est toujours vivant d'ailleurs.
Qui est toujours vivant, ce qui n'est pas le cas de Lécureux. Que dire de Raon? C'est le héros parfait, finalement. Il est beau. Il est sympa, il est généreux, il est intelligent, débrouillard, super musclé, c'est une sorte de Tarzan, non pas moderne, mais des temps préhistoriques. Il n'a pas de défaut, ce garçon. C'est presque agaçant.
Pif, 50 ans d'humour, d'aventure et de bande dessinée. Voilà un cadeau à faire à tous ceux qui sont nés dans les années 60, 70, c'est ça?
80 même.
On s'arrête à 80. Et c'est chez Hors Collection que c'est édité. Merci Christophe Kilian d'être venu ce matin pour nous en parler.
Merci à vous.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Michel Riopel, un couple dans la démesure, au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. Pour la première fois, une exposition retrace les carrières artistiques de Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel à l'aune de leur relation jusqu'à leur séparation. Près de 60 œuvres emblématiques, fruits de leur travail réalisé dans le contexte particulier de cette histoire, seront présentées à Landerneau. L'exposition Mitchell-Riopel, un couple dans la démesure, actuellement au fond Hélène et Édouard Leclerc dans le Finistère, en partenariat avec France Culture. Parlons culture autrement, l'anachronique culturelle, Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Dans quel esprit rentrent les députés de la majorité dans leur circonscription aujourd'hui pour les fêtes? Fatigués et surtout inquiets après un mois de mobilisation des Gilets jaunes. Une colère, avoue-t-il, qui ne s'est pas calmée, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, vous comprendrez le blues des magistrats. Surmenés, sursollicités, ils demandent davantage de moyens. Un rapport de l'inspection générale de la justice va en leur sens. Le métier n'attire plus. Et puis le meurtre de deux touristes randonneuses au Maroc est bien une attaque terroriste. Les quatre suspects se revendiquent du groupe État islamique. Nous irons sur place. Mais d'abord, c'est la hausse la plus forte de l'histoire du SMIC espagnol. Il augmentera de 22% l'année prochaine, en 2019. Le Conseil des ministres espagnols doit adopter cette mesure aujourd'hui, plus 22%. Il faut dire que les Espagnols partent de très bas. Le SMIC dans le pays est actuellement de 736 € par mois. Il passera donc à 900 €, puis à 1 000 € en 2020. Voilà ce que dit le gouvernement socialiste. Les réactions sont pourtant contrastées, Mathieu de Taillac.
La hausse du SMIC espagnol est tellement forte qu'il est difficile de trouver des précédents dans l'histoire économique et de prévoir ses possibles effets. D'un côté, une augmentation de 22%, de l'autre, un faible nombre de SMICards, 3% à peine de la population active. Florentino Felgueroso est économiste au think tank FEDEA.
Pour une petite entreprise qui a 2-3 travailleurs qui peuvent travailler le SMIC, c'est une hausse importante, considérable. Et surtout, c'est une hausse considérable d'un coup, non? En 2 années, ça va augmenter plus de 30%.
De 736 à 900 € en 2019, puis de 900 à 1 000 € en 2020. Mais il est vrai que l'Espagne part de loin et que les salaires ont à peine bougé pendant la crise, qui a également provoqué une augmentation des inégalités sociales. Gabriel, 23 ans, est au chômage après avoir travaillé dans une maison de retraite.
Ce qui est insupportable, c'est qu'il y a des gens qui sont assis à un bureau et qui gagnent 2 à 3 000 euros. Et moi, quand je me cassais le dos à transporter des personnes âgées dans une maison de retraite, je gagnais moins de 1 000 et je faisais plus d'heures qu'eux.
La hausse du SMIC pourrait bien resserrer l'échelle des salaires, à moins que, Florentino Felgueroso.
Il va y avoir un effet contagion. Ceux qui ont un salaire au-dessus du salaire minimum vont réclamer certainement une augmentation salariale plus importante. Donc il peut y avoir un effet indirect d'inflation salariale. Non ?
À condition, bien sûr, que les entreprises espagnoles acceptent les demandes de hausse de salaire en cascade.
Mathieu de Taillac depuis Madrid pour France Culture. La revalorisation du SMIC, c'était l'une des mesures demandées par les Gilets jaunes en France. Finalement, ce sera une hausse de la prime d'activité. Elle a été actée avec les autres mesures exceptionnelles cette nuit en urgence par les députés à l'Assemblée nationale. Le texte est approuvé par 153 voix pour, 58 abstentions, 9 voix contre. 9 voix contre, parmi lesquelles celle du marcheur Sébastien Nadeau, l'élu de Haute-Garonne. Garonne, l'élu En Marche, a été exclu du parti majoritaire dans la foulée hier. Tous vont maintenant retourner pour les fêtes dans leur territoire, secoué tout de même par ces dernières semaines de mobilisation. Et des élus inquiets de ce qui pourrait de nouveau arriver, Stéphane Robert.
Les députés de la majorité repartent dans leur circonscription, pas vraiment rassurés de ce qui pourrait advenir dans les semaines et les mois qui viennent. Ils ont été surpris par la contestation des Gilets jaunes et ont l'impression d'avoir à peine répondu aux attentes avec les mesures d'urgence qu'ils viennent de voter. Jean-Bernard Sempastous est député des Hautes-Pyrénées.
Là, on a trouvé des solutions, bien sûr. Hein. Mais je crois qu'il faut être attentif et écouter au mieux nos concitoyens. Et peut-être qu'il y a une méthode à mettre en place.
Maintenant, il y a le débat qui va s'ouvrir en janvier. La grande concertation avec la population qui va pouvoir s'exprimer. Mais bien malin, qui peut dire ce qui va en ressortir. Et beaucoup, à l'image de la députée constructive Laure de la Raudière, sont plutôt pessimistes.
Il y a peut-être une possibilité de sortie de crise. Mais quand je dis peut-être, j'ai un infime espoir. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup le risque que ce mouvement reprenne parce qu'on ne règle pas le problème à la base aujourd'hui.
Qui est
le pouvoir d'achat des Français et le ras-le-bol fiscal.
D'autres en revanche sont plus optimistes. Mathieu Orphelin, notamment député La République En Marche du Maine-et-Loire.
J'espère, moi je suis dans cet optimisme de dire que le grand débat, ça va être ce grand moment de dialogue, d'explication, de création, d'imagination, de nouvelles mesures. Et puis après, la responsabilité en mars, ce sera le gouvernement. Parce que ce n'est pas un débat pour ne rien faire derrière, c'est un débat pour changer les choses. Et là, le gouvernement devra traduire un certain nombre de choses dans des nouvelles politiques.
En attendant, tous ces députés repartent aujourd'hui chez eux pour les fêtes de fin d'année, avec le sentiment que les choses se sont calmées en apparence, mais que rien n'est apaisé.
Un rapport souligne une fois de plus le manque de moyens de la justice française. Il s'intéresse cette fois aux magistrats du parquet, procureurs et substituts. Ce rapport de l'inspection générale de la justice a été remis en début de semaine à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et il pointe à la fois un sous-effectif chronique dans les rangs du ministère public, ainsi que, c'est notable, le manque d'attractivité pour cette spécialité, Florence Turme.
Les auteurs du rapport ont suivi 3 promotions de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 38% des jeunes magistrats ont quitté le parquet après 5 ans de fonction et 55% après 10 ans, d'où un certain nombre de postes vacants en nette résorption depuis l'an passé, souligne la chancellerie, quand les procureurs interrogés estiment encore leurs besoins réels à 175 magistrats supplémentaires. L'inspection se montre elle-même très critique. Il n'est plus possible de considérer comme normal que la justice judiciaire soit à ce point déshérité, écrivent les auteurs du rapport, qui pointent non seulement des effectifs insuffisants, mais aussi des temps de travail qui explosent et la multiplication des missions dévolues au parquet, ce qui explique selon eux l'effritement de l'enthousiasme premier pour ce qui est considéré comme un métier passion. Aujourd'hui, les parquetiers regrettent d'être obligés de gérer l'urgence au détriment d'autres contentieux, civils et commerciaux notamment. Certains pointent aussi une hiérarchisation pesante, parfois infantilisante, qui nécessiterait une réflexion de fond, estime l'inspection. Elle préconise par ailleurs, outre l'augmentation des effectifs, une redéfinition de ses missions d'urgence, le renforcement du rôle des greffiers et une réforme du statut pour renforcer l'indépendance du ministère public, sujet prévu dans la réforme constitutionnelle, une nouvelle fois reportée en attendant les résultats du grand débat national.
Et en attendant, l'inspection générale de la justice préconise donc d'augmenter significativement les effectifs de magistrats du parquet à la hauteur de leur mission, dit-elle. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Peter Sherif a été arrêté par la police française hier à Djibouti, en Afrique. Il est actuellement placé en garde à vue. Connu également sous le pseudonyme d'Abou Hamza, le suspect est un proche des frères Kouachi, auteur de l'attaque contre Charlie Hebdo il y a presque 4 ans. Avec Amédi Coulibaly, ils avaient tué 12 personnes, attaque revendiquée par l'ACPA, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique. Eux se réclament du groupe État islamique. 4 hommes ont été arrêtés au Maroc après le meurtre de 2 jeunes touristes scandinaves en début de semaine. C'était dans les montagnes du sud du pays. Meurtres qui ont été filmés. Les autorités marocaines évoquaient dès hier la piste terroriste. La population sur place est encore sous le choc, Théa Olivier.
C'est sur Facebook que Sarah Choquet a découvert la vidéo où plusieurs hommes tuent l'une des jeunes randonneuses. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.
C'était une vidéo qui m'a vraiment fait du mal. Vraiment, ça ne nous présente pas comme des Marocains.
Au total, 4 suspects ont été arrêtés. Tous ont prêté allégeance à Daesh. Dans une autre vidéo tournée une semaine avant le drame, selon le procureur général. Une nouvelle qui révolte les Marocains, comme si Mohamed en train de boire un café avec un ami.
Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le terrorisme n'a pas de religion. C'est un acte qui nous a déçus.
En face, son ami acquiesce.
La plupart du temps, tu tombes sur des gens qui sont illettrés et qui ont eu à être guidés par des charlatans, des vendeurs de rêves.
Pour Nawal, jeune étudiante des Beaux-Arts, la question n'est pas seulement la religion.
Ce qui nous touche spécialement dans cet incident, c'est que ce sont des femmes. Ça touche à la liberté de la femme, à l'initiative qu'ont pris ces deux femmes pour voyager toutes seules. La femme doit se battre pour sa liberté.
Un sit-in en hommage aux victimes est prévu samedi à Rabat, devant les ambassades de Norvège et du Danemark. Un événement Facebook qui regroupe déjà plus de 6000 participants.
Donald Trump a bien décidé tout seul le retrait des troupes américaines de Syrie. La démission de son ministre de la Défense hier soir, Jim Mattis, confirme cela. Le chef du Pentagone adresse une lettre au président américain. Il demande que les États-Unis traitent leurs alliés avec respect. Donald Trump, par ailleurs, qui pourrait maintenant décider de retirer une grande partie des soldats américains d'Afghanistan. 7000 des 14000 hommes sur place seraient concernés, selon plusieurs médias américains. Et puis l'espoir d'une libération s'éloigne pour Carlos Ghosn. Au Japon, le patron de Renault est de nouveau en état d'arrestation sur décision du bureau des procureurs. Il est soupçonné cette fois d'abus de confiance, soupçonné d'avoir failli à sa fonction de PDG et d'avoir causé un préjudice au groupe Nissan, constructeur automobile dont il était le président du conseil d'administration avant son arrestation. Cette nouvelle garde à vue doit durer au minimum 48 heures. Le temps de ce vendredi en France, il sera très pluvieux est très venté, ensoleillé seulement sur le sud du pays où il fera donc plus frais avec 5 degrés ce matin à Perpignan, compté 7 à Nice et à Lyon. Comptez par ailleurs sous la pluie 9 degrés à Besançon et Périgueux ce matin, 10 à Clermont-Ferrand, 13 degrés à Paris, Rennes et Lille. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous rejoignez à 6h40 pour votre journal des idées en ce vendredi matin. Artificialisation des sols, financiarisation de la propriété foncière, concentration des exploitations. Jacques, nos campagnes vont-elles disparaître ?
Voilà, c'est le constat. C'est la question aussi que pose Fabrice Nicolino dans Charlie Hebdo en relevant que l'on commence à s'en inquiéter aussi bien au Parlement qu'à la FNSEA, laquelle n'a pas peu contribué à cette situation. D'ici à 10 ans, prévient le journaliste, la moitié des paysages survivants arriveront à la retraite, souvent sans successeur. Le rapport parlementaire sur le foncier agricole souligne quant à lui que la terre est devenue une ressource convoitée et négligée, voire gaspillée lorsqu'elle est offerte à l'urbanisation et soustraite à sa fonction nourricière. Le texte fait notamment suite à l'annonce en 2016 de l'achat par un groupe chinois de 1700 hectares de terres agricoles dans le Berry. Coup de semonce et indice sûr de l'industrialisation ultime de l'agriculture. Et il préconise de remettre l'alimentation au cœur des stratégies de développement du territoire. Donc tout espoir n'est pas vain. Les campagnes sont de retour, titre le dernier numéro des dossiers d'alternatives économiques, écologie, tourisme, industrie, agriculture. Face aux difficultés, la plupart des campagnes innovent et misent sur la qualité de vie pour accueillir de nouveaux habitants. Comme le souligne Vincent Grimaud dans son édito, les faits contredisent le déclinisme ambiant, l'abandon par l'État, les territoires ruraux restent encore les mieux dotés en subventions publiques. L'exode, il s'est discrètement renversé il y a 40 ans. Et sur le déclin économique au profit des grandes villes, il rappelle que les territoires ont vu depuis les années 1980 leur situation socio-économique s'améliorer plus vite que celle des métropoles. De nombreux exemples en témoignent. Les Herbiers, petite ville vendéenne de 16 000 habitants, affichent le taux de chômage le plus bas de l'Hexagone. À côté des poids lourds comme Jeannot, le constructeur naval de Plaisance, et ses 1100 salariés, une myriade de PME cultive un esprit d'entreprise où les entrepreneurs sont majoritairement des locaux. Patrons et salariés ont souvent été à l'école ensemble et sont tous engagés dans l'une des 300 associations que compte la ville. Moins bien lotie, la commune de Salles, dans le massif vosgien, a subi de plein fouet la crise de 2008, comme l'ensemble du bassin d'emploi de Saint-Dié. Du coup, elle s'est engagée dans une mutation écologique. parcs, éoliennes et panneaux solaires, villages vacances éco-construits, agriculture bio, produits laitiers qui en sont issus et se vendent dans toute la région. Le départ des paysans ayant entraîné une invasion des prairies par la forêt, son défrichage a renouvelé le paysage, ouvrant la voie aux rayons du soleil pour une heure supplémentaire sur le village. La dernière livraison de la revue Vie sociale est consacrée à l'intervention sociale en milieu rural. Brigitte Bouquet et Patrick Dubéchaud évoquent la recomposition actuelle du monde rural dont ils confirment le dynamisme démographique des petites unités urbaines de 2000 à 10 000 habitants. Il y a plus d'arrivées que de départs et désormais plus de naissances que de décès. Et il rappelle les caractéristiques de la pauvreté et de la précarité en milieu rural. En 1968, l'agriculture occupait encore 12% des Français. Aujourd'hui, ce secteur est tombé à 3%. La fin du village, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Le Goff, nécessite de redéfinir ces territoires, en particulier la notion géographique d'espace de vie, qui se diffracte désormais entre le travail, le réseau familial et social, les loisirs, d'où l'importance cruciale de la mobilité, et c'est un des aspects de la paupérisation, les jeunes sans qualification, certains retraités, et aussi des néo-ruraux attirés par le moindre coût du logement, mais qui n'ont pas anticipé la question de la mobilité, le coût du transport. La revue Paysageur, qui pense avec ses pieds, élargit l'horizon des forêts du Morvan, ensapinées à tout va pour en exploiter le bois, aux paysages sublimes qui parlent une langue étrangère des îles Kerguelen, racontées à hauteur d'homme et de marche par François Garde aux confins de l'Antarctique. Dans la langue des nuages, celle que diffuse l'haleine des glaciers, un mur de brouillard permanent érigé par la rencontre de la mer encore tiède et de l'air venu du froid polaire. La mer, qui est en permanence en interaction avec l'atmosphère, les continents et les glaces, et dont le photographe Nicolas Floche décrit les variations de couleurs en fonction de la turbidité, c'est-à-dire l'ensemble des sédiments, les planctons et les matières détritiques contenues dans la masse d'eau. La couleur serait au paysage sous-marin, ce qu'est l'horizon au paysage terrestre, son point de fuite vers le monochrome, d'où ces étonnantes photos évoquant Yves Klein, bleu roi pour la Méditerranée, vert pour l'Atlantique. Les océans absorbent une grande partie de la chaleur et du CO2 tout en produisant les deux tiers de l'oxygène. C'est un grand bol d'air, on peut le dire. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Donald Trump et le budget américain.
Oui, donc fin de mi-mandat mouvementé pour le président Trump, entre les prises de position diplomatiques et stratégiques embarrassantes et la multiplication des déboires face à la justice et au Congrès, les deux prochaines années pourraient être difficiles au point de neutraliser le président. On analyse ça avec vous, Jeff Hawkins, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, vous êtes ancien ambassadeur américain sur le continent africain, notamment en Centrafrique, actuellement enseignant à Sciences Po et chercheur associé à l'IRIS. Alors c'est vrai que depuis une semaine, l'étau intérieur se resserrait autour du président, le filet judiciaire des enquêtes russes, la pression politique avec une menace de shutdown temporairement évitée. Et puis, avant-hier, là, l'annonce du retrait de Syrie, faite contre l'avis du conseiller et des militaires par le président. Alors, même si on met de côté la question de terrain, Jeff Hawkins, là, Donald Trump prend le risque d'une décision isolée pour simplement remplir une promesse de campagne.
Oh, je pense pas que ce soit pour une promesse de campagne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est une décision qui a surpris pas mal de monde, y compris au sein de son propre parti et au sein de sa propre administration. Donc, on se pose à Washington comme à Paris, pourquoi le président a pris cette décision-là.
Peut-être on pourra redire un mot de la diplomatie trumpienne, mais je disais effectivement, c'est assez rare que le président prenne une décision contre l'ensemble de ses conseillers, alors même que ses anciens conseillers le lâchent peu à peu à cause de cette enquête russe, ou ces enquêtes plutôt, qui se resserrent de plus en plus ces dernières semaines.
Oui, quand on parle des enquêtes, il faut se rappeler qu'actuellement, il n'y a pas moins que 17 enquêtes en cours. Et là, on ne parle pas seulement de Mueller, mais il y a aussi des enquêtes sur sa fondation. Et vous avez peut-être remarqué la fermeture du fondation Trump,
oui, la Trump
par les autorités, non seulement fédérales, mais les autorités de l'État de New York. Il y a eu une investigation sur le comité de cérémonie d'investiture. Il y a des investigations sur le Trump Organization, donc sur son entreprise. C'est vrai que c'est difficile de suivre tout ça en direct.
Et à quel point est-ce qu'il est menacé, notamment par les deux principaux aujourd'hui impliqués dans ces enquêtes, Michael Cohen, donc qui a été condamné à 3 ans de prison et qui rentrera en prison à janvier, son ancien avocat, et puis Michael Flynn, lui pour l'instant, qui est en attente de verdict reporté et qui continue à dire que le FBI l'a forcé à mentir, mais qui pourrait peut-être plaider coupable, comme Michael Cohen.
Oui, bon, quand on parle de menacé, il ne sera certainement pas accusé d'ici 2020 ou 2021, après son départ peut-être de la Maison-Blanche, parce que c'est la politique du département de justice aux États-Unis de ne pas porter plainte contre le président en exercice. Ceci dit, il y a toujours des risques de impeachment, donc une menace réelle venant pour l'instant de la Chambre des députés, maintenant contrôlée par les démocrates, et qui agit en quelque sorte comme procureur. Et par la suite, il y a un procès devant le Sénat. Donc, même si le président n'est pas destitué, les révélations qu'on pourrait voir pendant ce processus pourraient être politiquement très dangereuses pour le président. Et autrement, après son départ de la Maison-Blanche, et surtout si c'est après un seul mandat, il risque gros. Et notamment dans l'affaire de Cohen, qui a plaidé coupable pour des crimes dont il dit que la responsabilité revient au président. C'est le président qui a commandité ces crimes-là. Donc forcément, il y aura peut-être des procès. Le problème, c'est que, je ne sais pas comment vous dites ça en français, le statute of limitation, c'est-à-dire la limite
d'application.
D'application, ouais. Voilà. Pour ces crimes-là, ça expire assez rapidement. Donc c'est en 2021. Donc si le président arrive à se faire réélire, il est protégé. Et donc le président Trump a fortement intérêt justement à faire une très bonne campagne en 2020.
Ça, ce sera à suivre, le feuilleton de ces enquêtes avec des faits très graves. Effectivement, co-conspiration pour la question des versements d'argent, notamment aux deux ex-playmates, maîtresses de Donald Trump. Alors, on parlait du Congrès. Est-ce que, sur un autre plan plus politique, est-ce qu'il n'y a pas là un levier très fort pour les démocrates? On vient de le voir avec cette question du shutdown, cette menace dans les négociations avec le mur. Finalement, le Congrès s'est montré très résistant.
Oui, il faut se rappeler que le Sénat. Donald Trump a très peu d'expérience politique. Et ces deux premières années de présidence, il a eu le bonheur de travailler avec un Congrès totalement acquis aux républicains et qui était très complaisant vis-à-vis du président. Maintenant, la situation a changé assez radicalement et on a une chambre, pas les deux, le Sénat reste entre les mains des républicains, mais une chambre qui est maintenant contrôlée par les démocrates. Et on l'a vu cette semaine dans cette fameuse réunion entre Schumer, qui est le chef des démocrates au Sénat, et Nancy Pelosi, qui sera bientôt la présidente de la Chambre des députés. Et Trump était totalement dépassé par tout ça. Et il voulait faire une discussion en direct devant les caméras. Et c'est clair que, surtout Nancy Pelosi, qui est très rusée, a su vraiment mettre beaucoup de pression sur le président. Et maintenant, on va certainement voir un compromis. Trump qui disait « Oui, je suis prêt à fermer le gouvernement pour avoir 5 milliards pour mon mur. » Maintenant, il ne parle pas aussi concrètement.
Oui, c'est ça. Il y a eu cette scène assez extraordinaire. J'engage nos éditeurs à la regarder. Un échange télévisé le 6 décembre où il disait à Trump « Je suis fier d'aller au shutdown au nom de la sécurité des frontières ». Là, il a quand même dit, puisque c'est ça l'enjeu, la construction du mur et les 5 milliards, juste après la décision du Sénat de cette semaine, d'une manière ou d'une autre, nous allons gagner sur le mur. Ça veut dire qu'il a toujours l'intention de le faire financer ou par la Chambre ou par le Mexique.
Le Mexique, ça m'étonnerait. Et par la Chambre aussi, je pense, même parmi pas mal de républicains. C'est un symbole. Et pour
Donc, il maintient le symbole, même s'il a perdu alors.
Oui, mais pour ceux qui sont sérieux sur la sécurité, sur la frontière, et il y en a non seulement dans le Parti républicain, mais beaucoup dans le Parti démocrate, c'est pas là qu'on doit procéder. Construire un mur pendant des milliers de kilomètres de frontière entre le Mexique et les États-Unis, ça n'a pas de sens. Il y a d'autres mesures beaucoup plus efficaces qu'on pourrait prendre. Ouais. Et les démocrates ont proposé justement une augmentation assez importante du budget de sécurité des frontières. En échange sur des questions d'immigration, Trump n'a pas accepté. Il veut absolument ce symbole parce que sa base s'attend à voir un grand mur entre le Mexique et les États-Unis.
Et alors plus largement, comment vous évaluez sa capacité d'action au terme de ces deux années? On voit que notamment il y a la Fed qui prend des décisions de hausse des taux contre l'avis de Trump, qui vient de perdre le secrétaire d'État à l'intérieur très important sur les questions environnementales, qui vient de perdre aussi John Kelly, le chef de cabinet de la Maison Blanche, à la fois isolé et entravé. C'est un peu ça sa situation aujourd'hui?
Oui, isolé, et il y a plusieurs facteurs. La donne a beaucoup changé ces derniers temps. Premièrement, la victoire des démocrates pendant les élections de midterm, on commence à voir que c'était plus important qu'on avait pensé à l'époque. Ces 40 sièges à la Chambre des représentants que les démocrates ont gagnés représentent vraiment une victoire assez importante dans une période où les vents étaient plutôt favorables aux républicains. Donc déjà, on ressent un certain rejet, au moins dans une partie de l'électorat de Trump, même si sa base reste fidèle, ailleurs très faible. Et donc dans les sondages, à peu près, je pense pour l'instant, 43% des Américains approuvent. Donc c'est pas le pire qu'il a jamais eu, le pire score, mais c'est quand même pas très bien. Il y a maintenant la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et on va avoir toute une série d'investigations, d'enquêtes, de révélations sur son comportement. On le voit déjà. Il y aura aussi le fait que maintenant, on entre bel et bien en campagne électorale. Et déjà, il y a des démocrates qui se prononcent et le comportement d'un sénateur, par exemple, est différent s'il a des visées sur la Maison-Blanche que si on est en temps normal. Et donc, ça aussi, ça va peut-être exacerber les tensions entre les démocrates et les républicains. Et finalement, il y a cette question de ce qui attend Trump après son départ. Et là, il est vraiment en danger. On risquerait peut-être de voir un comportement en fonction de ce danger. Oui. En même temps, j'ai l'impression que les vents peut-être commencent à tourner. Et là, ce qui marchait assez bien pour le président Trump par le passé, on a l'impression que ça marche un peu moins bien. Par exemple, 62% des Américains maintenant croient que le président n'est pas honnête quand il parle de l'enquête sur les Russes et sur une potentielle coopération entre sa campagne électorale et les Russes. Il y a des signes très faibles, et je ne veux pas exagérer, parce que le Parti républicain, lui, est toujours très solide, mais c'est-à-dire un vote dans le Sénat américain récemment, ils ont condamné l'assassinat de Khashoggi par les Saoudiens.
Oui, tout à fait. C'est ça.
Ils ont voté pour la fin de l'aide américaine à la guerre saoudienne au Yémen, qui était un rejet de la politique du président Trump. Donc même maintenant, quelques républicains sur quelques sujets commencent un tout petit peu à mettre en question la politique du président.
Oui, donc c'est pas encore la déstabilisation, mais en tout cas quand même un début d'érosion à suivre ces deux prochaines années. Et merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Jeff Hawkins. Et puis j'ajoute que à partir de la semaine prochaine, Émilie Chaudet présentera les enjeux internationaux. Quant à nous, je vous donne rendez-vous à partir du 2 janvier pour la reprise. Passez de bonnes fêtes et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Éblouissante Venise au Grand Palais. Capitale artistique de l'Europe, la civilisation vénitienne brille de tous ses feux à l'aube du XVIIIe siècle. Un rayonnement dû à des artistes de renom, parmi lesquels Piazzetta, Tiepolo, Canaletto, Corradini, Vivaldi. À travers les chefs-d'œuvre des plus grands artistes vénitiens et une programmation de spectacles au sein même de l'exposition, découvrez la ville de tous les plaisirs. Éblouissante Venise, jusqu'au 21 janvier, un partenariat France Culture avec Arte.
6h57 sur France Culture, l'heure des matins. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Xavier Martinet. Je vais vous faire un aveu. Depuis deux semaines, je me consacre exclusivement à la lecture des suppléments cadeaux. Ça change des news magazines. Au moins là, on n'est pas dérangé par de la pub. Ça n'est que de la pub. Et si vous en avez marre du genre humain, assez qu'on vous bassine avec les crises, les suppléments cadeaux sont faits pour vous. C'est un peu comme un grand magasin, les vendeurs désagréables et les clients atrabilaires. En moins, en lisant les suppléments cadeaux, on comprend enfin ce que vivait le pharaon, mort, entouré d'objets. Les suppléments cadeaux renseigneront beaucoup plus les anthropologues du futur sur notre civilisation que les magazines avec lesquels ils sont vendus. Car ces suppléments nous rappellent que nous vivons dans la dernière société primitive au monde, celle qui célèbre des totems et des talismans appelés marques et autres montres, une société placée sous le signe de ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise. Car la marchandise, poursuivait-il, est pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. Celui aujourd'hui qui ne comprend pas la différence qu'il y a entre un iPhone et un Huawei, un Chanel ou un Yves Saint Laurent ne comprend pas vraiment le monde qui l'entoure. Ce n'est pas que notre société soit matérialiste, elle est au contraire spiritualiste. Elle confère un esprit aux objets. Ce sont les objets qui nous parlent et nous racontent. La consommation a pris le pas sur la production. C'est désormais le système des objets qui raconte les hommes. Ce n'est pas un hasard si ce sont les magazines qui proposent les meilleurs suppléments cadeaux, car ce sont eux, les magazines, qui ont accompagné cette célébration des objets dans la France des Trente Glorieuses, à l'époque où l'on nous promettait de vivre comme des dieux, mieux, comme des cadres. Ce sont ces magazines qui ont construit le temple de la consommation dans les années 1960, comme le rappelait Georges Perec dans Les Choses, un livre qui ne parle que de suppléments cadeaux, sous-titré Une histoire des années 60, un livre où les deux personnages lisent l'Express, le magazine, je cite, leur offrait tous les signes du confort, les gros peignoirs de bain, les trucs utiles, les plages à la mode. Avec les suppléments cadeaux des magazines, la littérature est partie, seules les choses sont restées.